Sonar, la chronique musique.
Chaque jour dans Sonar, on sonde l'actualité musicale, en long, en large, en profondeur et en surface.
Bonjour, donc je m'appelle Arnaud Le Gouéflec et je suis là pour parler du Festival Invisible, festival qu'on a créé, mon épouse et moi, Maëlle, il y a 17 ans, il me semble, en 2006, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du festival, nous expliquer quel est le but d'inviter des artistes comme ceux que vous invitez ?
Le but de notre démarche, c'était, ça partait d'une souffrance. C'est-à-dire qu'en 2005-2006, on se sentait vraiment très isolé, tout au bout de la péninsule bretonne. On était fan de groupes qu'on ne voyait pas, on s'intéressait à des musiques qui étaient vraiment à 1000 km de nous. Et on avait en même temps, vu qu'on était aussi un label et qu'on avait aussi des artistes à défendre, on était aussi un peu enclavé avec... On a l'impression qu'on ne comprenait pas très bien ce qu'on faisait comme musique. Enfin bref, il y a un petit peu cette sensation d'enclavement qui est géographique, hein, qui est un peu historique aussi. Et on s'est dit que soit on partait, soit on faisait venir ici des artistes qu'on admirait pour rentrer en proximité avec eux. Donc on a la fleur au fusil, créé un festival sans savoir si on était capable de faire ça ou si c'était raisonnable. Et de fait, la première édition s'est soldée par un trou vertigineux dans la caisse qui fait qu'on aurait dû arrêter là normalement. Mais on a continué parce qu'on est joueurs et en fait la deuxième année on s'en est sorti, etc. Et de fil en aiguille, ça a duré 17 ans. Voilà. Et le but du jeu, c'était de faire venir donc des artistes admirés, moi ce que j'appelle les grands frappés. Grandes figures surréalistes de la musique qu'on admirait, qui était notre oxygène quotidien, mais qu'on voyait jamais dans le coin. Et donc on a eu l'idée de ce festival rock, mais rock avec un pied dans l'étrange et un pied dans la singularité et dans les démarches hors piste. Voilà.
D'accord. Et justement, comment vous choisissez les artistes ? Est-ce que c'est que des artistes que vous écoutez ou est-ce que vous cherchez un petit peu ailleurs aussi ?
Eh ben, au début, c'était, on était deux, donc on programmait des artistes qu'on admirait, tout simplement. Et puis au bout d'un moment, se présente un risque qui est celui de la sclérose. C'est-à-dire qu'on peut très vite, au bout de quelques années, tourner en rond et ne plus évoluer, en fait. Et ce qui est quand même un danger mortel pour un festival comme le nôtre. Et donc la chance qu'on a eue, c'est de rencontrer d'autres personnes et d'étoffer l'équipe. Et de plus en plus de déléguer toute cette programmation à des têtes chercheuses beaucoup plus affûtées que nous, qui sont tout le temps à la recherche de la nouveauté, tout le temps à la recherche de l'underground dans toutes ces manifestations. Ce qui fait qu'on programme toujours un peu, nous deux, mais on fait aussi beaucoup confiance, quoi. Je pense que la clé, de toute façon, pour éviter la sclérose, d'une manière générale, c'est de collaborer avec des gens et de ne pas vouloir tout contrôler tout seul.
Comment vous procédez à l'organisation du festival ? Où est-ce que vous commencez ? Quand est-ce que vous commencez à chercher les artistes ? À organiser un peu tout ça ?
Le festival, il a lieu fin novembre. En général, en mois de décembre, on essaie de récupérer un peu nos sens et nos esprits. Et puis à partir de janvier, on recommence à discuter les uns les autres. L'idée, c'est quand même qu'il y ait un comité de programmation de 4 personnes et qu'il faut qu'il y ait une unanimité entre les 4 personnes. Parce que bon, c'est un bon principe, je pense, pour arriver à quelque chose qui satisfasse tout le monde. Et en même temps, ça nécessite quand même d'accepter qu'on n'est pas tous... qu'on peut découvrir et être surpris par ce que l'autre propose. Qu'on ne soit pas forcément tout le temps dans un ronron, quoi, justement, de ce qu'on connaît déjà. En fait, la plupart du temps, les 3/4 des groupes qui sont programmés au festival, on les découvre nous-mêmes en les programmant. Il y en a un qui est connu par un tel et un autre qui est connu par un autre programmateur, mais il y a un gros pari sur la surprise et sur la découverte pour nous aussi, quoi. Et tout ça s'échelonne jusqu'à l'été. Et quand on arrive à l'été, normalement, l'affiche est finie. Ce qui, évidemment, n'est jamais le cas. C'est-à-dire que c'est censé être ça, mais on part toujours en vacances en se disant « zut ». Et bon, enfin, l'idéal, c'est ça. Et après, ensuite, entre septembre et novembre, c'est l'organisation. Mais parfois, il reste encore des petits bouts de programmation à caler.
Est-ce que parmi les artistes que vous avez invités au fil des éditions, il y en a qui ont peut-être réussi à se faire un plus gros nom dans le domaine musical?
Je ne sais pas, j'en sais rien en fait. La fiche du festival, elle est composée de gens déjà très connus parfois, mais pas forcément très connus du grand public, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, il y a une partie de l'affiche qui est très actuelle. C'est vraiment des groupes qui défraient la chronique en ce moment. Il y a une partie très underground, où là c'est des groupes complètement obscurs. Et puis il y a des légendes. C'est un peu le dénominateur commun de toutes les éditions du festival. Tous les ans, il y a toujours une légende de l'histoire du rock. Sur le premier festival, il y avait Jimmy Carl Black, qui était le batteur de Frank Zappa, qui est vraiment une légende absolue. Mais il y a toujours eu des légendes. On a pu faire venir Faust, qui est un groupe majeur de la scène allemande des années 70. On a fait venir Magma, on a fait venir Jade Fer. Alors, c'est des noms qui n'évoquent peut-être rien, parfois, pour le grand public, mais qui sont quand même mondialement connus dans un certain réseau pour l'ensemble de leur œuvre, on va dire, quoi. Donc, on n'a jamais invité d'artiste, je pense, qui avait vocation à être numéro 1 au top 50, quoi. Mais, par contre, c'est des artistes qui ont tous vocation, souvent, à développer des œuvres longues et à rencontrer un public, et à rencontrer donc une certaine lumière, quand même, parfois médiatique.
Et alors, ça n'a pas de rapport avec les artistes, mais l'équipe technique qui est sur votre festival, c'est une équipe technique composée par vous-même, ou alors c'est l'équipe technique des artistes?
Alors, nous, au sein de l'association, il y a un régisseur technique général qui coordonne toute la partie technique, et ensuite on travaille à la fois avec l'équipe des artistes, effectivement, qui des fois viennent avec leur sonorisateur, leur ingénieur lumière. Je me rappelle par exemple des Young Gods qui sont venus à la Carène avec leur propre système de son, carrément, parce qu'ils veulent maîtriser leur son jusqu'à la virgule près, et c'était d'ailleurs spectaculaire. Et on travaille aussi beaucoup avec les équipes des salles, tout simplement. Là, on travaille avec la Carène, par exemple, donc on est en étroite relation avec l'équipe technique de la Carène, avec celle de Passerelle, centre d'art de Passerelle, avec l'équipe du Quartz, puisqu'on fait aussi une soirée avec le Quartz, etc., etc.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de festivals comme celui du Festival Invisible à Brest, en Bretagne ou en France en général ?
Je sais pas, je ne sais pas. Je sais qu'en Bretagne, il y a quand même beaucoup de propositions, et c'est ça qui est chouette. Dès que je sors de Bretagne et que je rencontre des gens qui viennent d'autres régions, ils me font souvent remarquer ça. Ils me disent, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez avec l'offre culturelle bretonne. Il y a de tout en Bretagne. Il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Et donc moi, je trouve que c'est important qu'il y ait une variété de propositions. Nous, on est dans un registre un peu particulier. Il y en a d'autres que nous. Hein. À Brest, pendant des années, il y a eu un autre festival qui s'appelait Sonore, par exemple, qui était presque un festival cousin, mais qui lui venait plutôt du monde du jazz, par exemple. Moi, je trouve qu'il y a de la place aussi pour tout le monde. Et plus il y a de festivals qui sont animés par le levain de la passion, quoi.
En m'intéressant un peu à l'affiche du Festival Invisible, j'ai repéré trois artistes, Oiseau Tempête, Delgado Jones et Alt. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu des styles musicaux de ces trois artistes ?
Eh ben oui, Oiseau Tempête, c'est un groupe qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. C'est un peu un super groupe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'individualités remarquables au mètre carré assez important. C'est un groupe très électrique, très noise. Et puis l'ex-chanteur du groupe ZX, groupe hollandais, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle GW Sock. Il y a Jerusalem in My Heart, il y a aussi un membre de Sons dedans, donc c'est vraiment un groupe ce qu'on appelait à l'époque un super groupe, quoi. C'est-à-dire vraiment un collectif autour d'une musique, ouais, c'est très rock, très électrique, ça va déboîter. Delgado Jones, bah, c'est un des artistes de l'église de la Petite Folie, par ailleurs, et c'est un musicien avec qui j'ai eu l'occasion de travailler depuis longtemps, qui lui a été très marqué par un certain folk, un certain acide folk des années 60-70, par Donovan, par Skip Spence, pour ceux qui connaissent, qui est quand même un des grands noms de ce courant-là. I have slept one night with you. The city was dark and blue. Flying dreamers floating overboard. Voilà, c'est quelqu'un qui est très marqué par la musique psychédélique, par le folk psychédélique, et qui, je pense que c'est un compositeur de premier ordre. Il est basé au nord de Morlaix, et il a fait un certain nombre de disques seul ou en collaboration. C'est vraiment quelqu'un qui gagne à être suivi, parce qu'il se renouvelle à chaque album. Et donc là, en l'occurrence, il vient d'en sortir un, sur l'église de la Petite Folie, qui s'appelle Songs of Wonderland, et je vous invite, j'invite tout le monde à aller écouter la finesse de ses compositions. To paradise cosmos. I need a drink, a little beer. Before we party in the pit, you mesmerized my mind for Elijah. Shall we go for another drink? And let's mix our fluids in paradise, paradise, cosmos. I need a sex with little things. Follow it to the infinite. Let's go. Quant à Halt, c'est un duo de chansons françaises, ce qui dit comme ça, il ne veut pas dire grand-chose, mais si on doit les comparer ou les rapprocher de quelqu'un, c'est peut-être de Areski et Fontaine, quand Brigitte Fontaine et Areski Belkacem faisaient cette espèce de duo iconoclaste dans les années 70. Il y a un côté zinzin complètement chez Halt, des chansons complètement non-euclidiennes, complètement démontées et remontées de travers. C'est vraiment des gens qui font une chanson qui ressemble à justement pas de la chanson française toute gentille comme on l'entend, quoi. Mais ils ont une carrière assez longue derrière eux, et ils viennent de sortir un album remarquable qui a beaucoup fait parler de lui, et je pense que c'est vraiment... ils incarnent un espoir, quoi. Tu t'es tout esquinté, d'où viens-tu? C'est pas chic. Oh, bagnole, c'est toi mon cœur, c'est toi le cœur de mon Amérique. Oh, bagnole, c'est la dernière fois que tu sors. Tu sors seul.
espagnol, tu t'es tout esquinté, d'où viens-tu? C'est pas chic, oh bagnole, c'est toi mon cœur, c'est toi le cœur de mon Amérique. Oh bagnole, c'est la dernière fois que tu sors sans moi. Oh bagnole, c'est la dernière fois que tu sors seul. Perché sur le toit, je fais claquer mes fusils en bois. J'ai de la bière au frais et j'ai des chips. Perché sur le toit, je fais claquer mes fusils en bois. Yo, à boule ta fraise, apocalypse.